Bien, nous voulons bénir le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est un jour comme tous les autres, mais c'est un grand jour. Un grand jour pour l'Église. Dans l'histoire de l'Église, le jour de la Pentecôte, c'est un grand jour. C'est le jour où l'Église de Jésus-Christ est née. Amen. Parmi, il y a beaucoup de fêtes dans l'Église, mais il y a deux plus grandes fêtes. La fête de Pâques et la fête de Pentecôte, que nous célébrons aujourd'hui. Alors, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de la mission de Jésus dans le thème que j'ai intitulé « L'ordre suprême ». L'ordre suprême, c'est mon thème. Alors, au travers de ce thème, je vais vous parler de trois missions. La première, c'est de Jésus-Christ. La deuxième, celle de Jésus-Christ, lui-même, à son tour, va envoyer des gens en mission. Et la dernière, c'est ça, le nœud, le point central de notre message ce matin. À ce qui concerne la mission de Jésus-Christ, Jésus-Christ est envoyé en mission sur cette terre par son Père. Il est venu, il nous a communiqué les volontés de son Père à nous, les peuples de cette terre, à nous, les créateurs, les créatures qu'il a créées à son image. À un moment donné, il voulait se faire une idée de comment les gens le perçoivent. Parce qu'il y a des serviteurs que Dieu même avait envoyés avant Jésus-Christ. Maintenant que Jésus est arrivé pour annoncer aussi le message de son Père, comment les gens l'ont perçu? Alors, nous allons lire dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Nous lisons. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes ?»« Moi, le fils de l'homme. » Ils répondirent, les disciples, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprenant la parole, Jésus lui prenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Voilà. Voilà comment Jésus est perçu. Ils le prennent comme un autre prophète. Il y en a même qui ont dit, voilà, la consistance de son message, on dirait que c'était un autre Élie qui est revenu. D'autres, en tout cas, ils disent, non, il doit être Jean-Baptiste. Voilà. Donc, beaucoup d'opinions. Et l'autre, qui n'ont pas su la lignée, ils disent, non, l'un des prophètes. Alors, il dit, voilà, ça c'est ce que les gens disent. Mais vous, qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Et là, tout le monde s'est tu. Alors, comme des élèves dans la classe, à un moment donné, Pierre lève le doigt. Il dit, toi, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il a fallu que Pierre reçoive une révélation de la part du Père. C'est ce que Jésus leur a dit. Ce que tu dis, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, pour ce qui concerne des choses spirituelles, il faut une révélation. Une révélation. Alors Jésus dit d'enchaîner, tu es heureux, Simon fils de Jonas. Et moi je dis que tu es Pierre. Il le baptise, il change de nom. Il s'appelle Simon, maintenant Jésus l'appelle Pierre. Et il dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Je vais quand même m'attarder un peu là-bas parce qu'il y a beaucoup de confusion et il y a des dégâts qui se sont faits durant des siècles à partir de là. Simon, l'apôtre, Jésus le baptise Pierre. Pierre avait grand P. Parce que c'est le nom d'une personne, c'est comme ça que la langue française le dit. Et puis il dit, sur cette pierre, certaines versions disent cela, mais si c'est bien rendu, on dit sur ce roc, il y a une différence dès le départ. Mais d'autres versions disent, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors que, si bien, les deux pierres ne sont pas les mêmes. Le premier pierre, c'est pierre de la personne, et le deuxième pierre, c'est pierre de caillou ou de roc. C'est ainsi que, bon, on a fait de Pierre une personne sur laquelle Jésus va fonder son église. Vous voyez? Alors qu'il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de Pierre, la personne, et sur ce roc, quel est ce roc? Ce roc, c'est le témoignage de Pierre. C'est ce que Pierre vient de prononcer. Que toi, Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est ça le roc sur lequel Jésus va bâtir son Église. Est-ce que vous m'avez saisi? Parce que c'est là l'erreur qui est de l'Église, entre guillemets, que nous connaissons tous. Alors, sur ce roc, le roc, c'est Jésus. Jésus va bâtir son Église sur Jésus. Vie tétologique, c'est pour que ça entre, pour que nous comprenions. Donc Jésus ne peut construire son église que sur Jésus lui-même. Et nous, toi et moi, nous sommes des petits Jésus, des pierres vivantes, qui vont te poser sur le roc, qui est Jésus. Et c'est pour cela que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Parce que les portes de l'enfer vont s'attaquer à Jésus. La fondation, c'est Jésus. Les pierres qui construisent le bâtiment, l'édifice, c'est des pierres vivantes, toi et moi. Et donc, les portes de l'enfer ne vont avoir aucune force sur l'église de Jésus-Christ. Amen. Et si toi tu t'appelles chrétien, tu es toujours là, pleurant, pleurnichant tous les jours, mets-toi en cause. Il se pourrait que tu te dises, tu t'es autoproclamé chrétien. Alors que tu n'es pas devenu chrétien, comme le dit la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui se sont autoproclamés chrétiens, et qui marchent, ils viennent à l'église, ils se disent chrétiens. D'autres même, parce que père et mère sont chrétiens, lui aussi il est de ses pères et mères qui sont chrétiens, il est chrétien. Ils sont comme ça dans l'église. C'est un problème d'ignorance. Ce n'est pas comme ça qu'on devient chrétien. On devient chrétien selon les Écritures. On n'a pas à développer ça ici. Voilà, Jésus annonce qu'il bâtira son église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alors, dans la mission de Jésus, il y a une feuille de route que Dieu lui a donnée avec beaucoup, beaucoup de points à réaliser. Moi, j'en retiens deux. Le premier point pour Jésus, c'est de mourir, donner sa vie pour nous les pécheurs. Mourir pour les péchés. Mes péchés, tes péchés, nos péchés. Première mission. Et deuxième point de la mission, bâtir son église. Tous ici, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, nous sommes cette église-là que Jésus a dit que je bâtirai mon église. Il a dit dans le futur, je bâtirai mon église. Il n'était pas encore bâti quand il parlait à ce moment-là. Et toi et moi aujourd'hui, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, au départ, avant que Jésus, parce qu'il y a un processus pour qu'il arrive à fonder son église, il va faire des disciples. Après qu'il ait fait des disciples, il va les envoyer. Lui, à son tour, qui est venu en mission, lui aussi va confier la mission à certains de ses disciples, les 70. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Verset 8 à 9. Là, on va lire la feuille de route que Jésus confie à ses disciples, aux 70. Alors, avant qu'on arrive à 8 à 10, c'est pour gagner le temps, on va lire d'abord les trois premiers versets. Après cela, dans Luc chapitre 10, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » La suite continue, je saute, je vais au verset 8. Dans quelques villes que vous entriez, et là et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera donné, ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà la mission. Donc, voilà la feuille de route, les deux points importants que Jésus confie à ses disciples. Annoncer, guérir les malades, et puis annoncer aux gens que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors, après qu'ils auront fait cela, au leur retour, ils ont constaté un autre fait. Quand ils sont rentrés, ah, Jésus, mais bien, c'est formidable. Même les démons nous sont soumis à ton nom. Ça n'existait pas. Les démons tourmentaient les gens. Tout le monde vivait dans la peur, dans la crainte des démons. Maintenant, pour la première fois, au nom de Jésus, les démons ont quitté le corps des gens. Et ils étaient surpris. Amen. En plus du fait qu'ils devaient guérir les malades, les lépreux, les sourds-muets qui devaient parler, puis qui devaient écouter, les lépreux qui devaient être purifiés, et ils ont délivré des gens de la possession des démons. Amen. Et Jésus, Dieu, dira, je vous ai donné le pouvoir, passé récent, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous le saviez? Sachez-le, ce n'est pas seulement donné au pasteur, c'est donné à tous les disciples, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. D'où, chez toi, quand il y a un problème, prie le Seigneur. Et la question, tu diras, pasteur, ben non, mais toi-même, tu as le pouvoir, mais prie. Ah oui, c'est ça, mais ils sont toujours... Bon, ils veulent toujours dépendre des autres. Ils sont toujours enfants, ils ne grandissent pas. Non, vous avez ce pouvoir, le pouvoir a été donné aux disciples. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu es disciple de Jésus-Christ, tu as ce pouvoir. Exercez-le. Impose les mains, priez, vous allez voir ce qui va arriver. On ne vous demande pas de réfléchir, on demande de poser les mains et de prier. Et le reste, tu verras ce qui va arriver. Bien-aimés, ça c'est la mission des disciples, les 70, qui étaient aussi partis en mission. Maintenant, Jésus va mourir et il va ressusciter. Cette fois-là, il va encore confier une mission aux 11 disciples. 11, parce que le 12e s'était suicidé, c'est Judas. Il en est resté 11. Il va donner la mission aux 11. Cette mission des 11, c'est ça où j'ai trouvé le mot l'ordre suprême. C'est une mission confiée aux 11 et cette mission nous est aussi confiée. Elle est permanente. Nous allons lire dans Matthieu 28, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Nous lisons. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous, bien-aimés. Il est avec nous. Pour ceux qui ont été sur le terrain, parce qu'ils ont connu les difficultés, hein, quand on annonce la parole, ce n'est pas facile. Hein. Bon, sache que Jésus est avec toi. Amen. Voilà, bien-aimés, pourquoi j'appelle ça ordre suprême, parce que ce sont les, c'est comment on dit, les dernières volontés de Jésus, avant qu'il ne rentre chez son Père. Il réunit les 11. Il leur dit, c'est comme le laboureur et ses enfants. Vous connaissez encore ça? Un laboureur s'entend sa bonne prochaine, fit venir ses enfants. Ok. Jésus aussi, avant qu'il ne rentre chez son Père, il réunit ses disciples. Il leur dit, sa dernière volonté. Donc c'est ce qui tient Jésus à cœur. Vous pouvez tout faire, vous pouvez beaucoup oublier, sauf ça. Qu'est-ce qu'il leur dit? Allez à travers le monde entier. Faites de toutes les nations des disciples. Voilà la mission. Voilà l'ordre suprême. Donné aux 11, qui est aussi donné à nous. Oui? Bon, il y en a qui n'aiment pas qu'on leur parle de devoirs. Hein. Effectivement, les droits. On a des droits. Mais ici, on a aussi des devoirs. Et voilà le devoir que Jésus nous a laissé, à toi et à moi. Si tu ne le savais pas, mon frère, je te le dis, nous avons un devoir que Jésus nous a donné. Quand nous irons chez nous, auprès de notre Père, qu'on passe au tribunal, devant le tribunal, parce que nous allons passer devant le tribunal. Mais les autres qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, eux, ils attendent le jugement. Mais nous allons passer devant le tribunal pour avoir des récompenses. Et alors, avant les récompenses, Jésus va demander à chacun de nous son devoir. Allez. Remettez le devoir à domicile. Oui, oui. Chacun donne son devoir. C'est sur cet ordre ici. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Bon, écoute, une petite digression. Moi, je viens de la République démocratique du Congo, de l'Afrique. Le Seigneur a envoyé des missionnaires, des Européens, qui sont allés là-bas nous apporter l'évangile. En brousse, hein? Voyez un peu le standing de vie ici en Europe. Mais ceux-là, à cette époque-là, sont allés en Afrique, où même les routes n'étaient pas encore tracées. Hein. C'est dans la brousse des sentiers. Ils ont abandonné le confort. Ils sont allés en Afrique. Beaucoup sont morts de moustiques. Beaucoup sont morts de morsures de serpents, des missionnaires. Pour apporter l'évangile au peuple d'Afrique, des Européens ici. combien sont encore prêts aujourd'hui d'avoir donné leur confort? Maintenant, les choses ont changé en Afrique, hein. Ça n'est plus des sentiers, il y a des routes. Combien sont encore prêts? Donc, ces Européens, à cette époque-là, ont mis en pratique ce qui est dit ici. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Même nous, les Noirs, nous sommes des créatures créées à l'image de Dieu. Dieu avait besoin de nous. Et là, on voit des gens ici, en Europe, pour aller nous prêcher la parole de Dieu. Par la colonisation, il y a aussi des missionnaires qui sont arrivés pour nous prêcher la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut prier pour les missionnaires. Il faut prier pour les missionnaires. Ils sont encore éparpillés dans le monde aujourd'hui pour porter l'évangile. Les portes ouvertes, jusqu'à côté de Mulhouse. Il faut un travail énorme dans le monde. Priez pour ces missionnaires. Voilà, nous, l'évangile est arrivé par les Européens qui sont arrivés, des Français, des Norvégiens, des Anglais, des Allemands, qui sont allés prêcher la parole de Dieu. Nous connaissons Jésus aujourd'hui. Maintenant, les choses ont changé. C'est nous maintenant qui venons prêcher la parole de Dieu en Europe. Donc, ça veut dire que cette mission, bien-aimée, elle est permanente. Elle concerne et même les Européens et même nous, les Africains, maintenant. Bon, pas seulement les Africains, hein, même nos confrères de l'Amérique latine, n'est-ce pas? Même nos confrères de l'Asie, nous sommes tous concernés. Nous avons un devoir de porter la parole de Dieu à toutes les nations qui ne le connaissent pas. Devoir, je vous le dis, devoir de missile. Jésus nous attend. Nous allons remettre le devoir là-bas. Donc, bien-aimés, voici la mission, notre devoir que nous avons. Nous allons rendre compte un jour auprès de notre Maître, Seigneur Jésus. Mais alors, pour pouvoir accomplir cette mission, parce que quand Jésus avait dit, quand il avait envoyé les disciples, les 70, quand ils sont revenus, mais ils sont revenus, ah, mais c'est terrible, ton nom Jésus. Même les démons sont soumis. Et ils ont vu des merveilles. Des muets qui parlaient, des sourds qui entendaient, des lépreux qui étaient purifiés, bon, des boiteux qui commençaient à marcher, des estropiés, donc les jambes qui s'allongeaient, mais des choses formidables. Oh! Alors, ils sont venus très contents. Jésus a dit, attention, ne soyez pas contents parce que vous avez vu les merveilles. Soyez plutôt contents parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Maintenant, la mission est donnée. Quand Jésus dit, voilà, maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. OK? OK. Maintenant, pour pouvoir accomplir cette mission, Jésus nous a donné un moyen. Dieu est esprit, disons-nous, n'est-ce pas? Mais toi et moi, nous sommes physiques. Ce que Jésus est en train de vous partager là, c'est une histoire qui concerne le monde spirituel, n'est-ce pas? Oui. Ce que Jésus est en train de partager avec vous, c'est une histoire d'un autre monde, un monde spirituel. Vous et moi, nous sommes dans un monde physique. Donc, il y a deux mondes différents. Bon. Comme nous avons deux mondes différents, je vais vous donner un exemple. Moi, que vous voyez, j'étais à l'école, à l'auto-école ici. Mais, je ne suis pas arrivé à avoir le permis. Mais je sais conduire. Est-ce que je peux conduire? Si j'achète une voiture, je peux conduire parce que je sais conduire?
Non.
Hein?
Non.
Pourquoi? Mais je sais conduire. Mais j'ai fait 77 heures de conduite, moi. Ouais, mais je vous le dis, je sais conduire. Mais pour conduire ici en France, il faut avoir le permis. Il faut avoir la carte grise. Il faut avoir l'assurance. Il faut. OK? C'est ici en France. Si vous n'avez pas ce permis de conduire, vous ne conduisez pas. Vous essayez de conduire, on vous prend, allez, on vous met en prison. Bon, ou bien on vous fait payer des amendes. Oui ou non? Ah, mais c'est ça la France. Ok? Je vais donner un autre exemple. Quand je viens d'arriver, bon, on devait aller voir un médecin. Mon épouse dit, oh, il faut qu'on prenne rendez-vous. Oh, comment prendre rendez-vous? Allons voir le médecin, il va nous soigner. Il dit non, ici il faut prendre rendez-vous. Oh, comment prendre rendez-vous? Quand on est malade, là, on tremble, ça ne va pas. Mais il faut aller vite chez le médecin. Il dit, oui, non, non, ici, il faut prendre rendez-vous. Ah bon? Bon, on est allé. Et non, il dit, on ne va pas. Allez, on prend le téléphone. Il prend le téléphone et il appelle le docteur. On prend rendez-vous. Docteur Robert, ce n'est pas encore docteur Gilles. Lui, on a connu après. Bon? C'est comme ça que ça fonctionne ici. Alors, il me dit, ah, ici, c'est un monde de rendez-vous. Hein. Donc, vous hasardez d'aller comme ça. On ne vous reçoit pas. Hein. On ne vous reçoit pas. Il dit, non, non, j'ai des rendez-vous jusqu'à telle heure. Désolé. Rentre, on va prendre rendez-vous. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Ce sont des choses réelles, ça. Ici, en France. Donc, nous sommes dans un monde physique. Et le pays, la France, est organisé de sa manière. Maintenant, bien-aimés, nous sommes dans un monde spirituel. Là aussi, il y a des règles. Si la France met des règles, tu penses que dans le monde spirituel, il n'y a pas de règles. Mais il y en a. Notre maître, le Seigneur Jésus, qui est dans le monde spirituel, qui contrôle bien ce monde spirituel, qui l'a créé, il vient et puis il nous dit, pour accomplir cette mission, il dit, attendez. Attendez. Lui, qui connaît le monde spirituel, qui l'a créé, qui sait comment le monde spirituel fonctionne différemment du monde physique. Il dit à ses disciples, quand ils voulaient partir, ah, on va encore vivre des merveilles, comme la fois passée. Il dit, non, 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 pas si vite. Hein. Attendez. Nous allons lire le passage. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Versets 4 à 5 et puis verset 8. Comme il se trouvait avec eux, Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Mais Matthieu 28, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? Bon, maintenant, ici, le jour où il devait maintenant rentrer chez son père, il dit, Jean baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, comme l'a promis le Père. Attendez. Amen. Attendez. C'est Jésus qui parle. Attendez. Attendez l'accomplissement de la promesse du Père dont vous m'avez entendu parler. La promesse, selon Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. N'est-ce pas? Vous vous souvenez? C'est Joël qui nous a annoncé ça. Maintenant, cette promesse-là va bientôt s'accomplir. Nous sommes dans les derniers jours, avec Jésus, quoi. Alors, il dit à ses disciples, attendez. Parce qu'ils étaient déjà prêts pour aller. Ils vont voir les aveugles recouvrir la vue, les aveugles, les sourds, ils vont entendre, bon, les lépreux seront purifiés, bon, les estropiés vont marcher, bon, les boiteux, tout ça. Mais alors, avant d'aller, cette fois, attendez. Attendez que la promesse du Père s'accomplisse dans vos vies. Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors vous serez revêtus de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit. Vous serez remplis de l'intérieur. Alors, vous irez Vous allez commencer par Jérusalem. Vous allez faire quoi? Témoigner, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous allez commencer par Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et vous allez continuer comme ça jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Pour la nouvelle mission, la deuxième que Jésus va confier à ses disciples, la première c'était aux 70, la deuxième aux 11. Cette mission qui est confiée aux 11, les 11 voulaient déjà aller sur le terrain et dire, attendez. Attendez quoi? L'accomplissement de la promesse du Père. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Car il viendra une puissance. Il viendra une puissance. C'est Jésus qui parle. Alors vous serez remplis de l'intérieur. Revêtus. Alors vous pouvez partir. Vous savez, il y a un film américain. Un monsieur rappelle, je ne sais pas, je ne connais pas bien le nom, Schwarzenegger. C'est ça, Schwarzenegger, vous connaissez? C'est un commando américain. Lui tout seul, vous pouvez terroriser toute la ville. Il vient ici à Nouvelle des Rennes, il pose des bombes, il sait conduire et les vélos, et les motos, et les trains, les avions, les hélicoptères. Il connaît tout. À lui tout seul. Il arrive dans la ville, il pose des bombes, il voit de l'autre côté, ça éclate dans des bombes unités. Alors quand ça commence à éclater partout, tout le monde est en débandade. Alors, il accomplit sa mission. Sans la guerre. C'est ça. C'est ce que Jésus a voulu. Que nous soyons des commandos. Parce que là, nous allons sur le terrain. Mais le malin nous a déjà précédé. La Bible dit dans Apocalypse 12:12. Car il est descendu en colère, le diable. Il est descendu armé de grande colère. On peut lire ce passage. Apocalypse 12:12. Apocalypse, chapitre 12, verset 12. Apocalypse, chapitre 12, verset 12. Voici ce que déclare la parole. C'est Dieu qui parle. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. C'est Dieu qui parle, malheur. Quand Dieu parle de malheur, il peut vous imaginer. Dieu dit, malheur. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et lui nous a précédé. Mise en place terminée. Il connaît bien le terrain, il a posé des bombes antipersonnelles, tout ça, des armes partout, il a placé, prêt à tirer. Tirer sur qui? Sur toi et moi, nous, enfants de Dieu. Nous, ses disciples. C'est pour cela, bien-aimé, pour pouvoir accomplir cette mission, Jésus a dit, attendez, attendez, attendez. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors vous êtes un commando, bien prêt. Pour ça, parce que vous savez, les militaires, ils ont leurs souliers, je ne sais pas comment on appelle ça, bottines. Hein? Rangers. Ces souliers là-bas, ils peuvent bietter même les débris de bouteilles. Vous voyez les bouteilles là? Ça fait, hein, quand vous avez des babouches. Ça coupe et puis ça vous tranche le corps. Mais avec ces rangers là-bas, vous écrasez et puis vous passez. Quand vous trouvez des fils barbelés avec les babouches, ça traverse et puis ça vous pique, hein, ça vous fait du mal. Mais avec ces rangers là-bas, mais lui, il piétine, il casse tout, il s'en va. Surtout en Afrique, quand il fait très chaud, avec ces babouches-là, ça fait très chaud, alors quoi? Vous marchez d'une manière très difficile là, quand c'est sur le rocher. Il fait très chaud. Et tout chauffe. Alors, même les babouches là, si la personne n'est pas bonne, alors vous marchez très difficilement. Mais ces rangers, avec les militaires, avec leurs rangers là-bas, mais ils vont là, ils piétinent, ils ne s'en occupent pas. Voilà ce que nous devons avoir, cet équipement bien-aimé. Et cet équipement, c'est quoi? C'est avoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et alors, on est fort. Alors, on marche sur le terrain. Alors, on passe la parole de Dieu qui sort avec une puissance de feu pour pouvoir toucher le cœur des gens. Les gens, donc, ils vont sortir du sommeil. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Alors, ils vont faire attention à la parole de Dieu. Et ils vont accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Le Seigneur lui-même dit dans Zacharie chapitre 4, verset 6. Jésus même complète. Il dit dans Zacharie chapitre 4, verset 6. Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel a dite à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par, et c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Vous entendez? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Et moi j'ajoute, ce n'est ni par le cartésianisme, avec le raisonnement logique, ni même par la psychologie. Parce que la psychologie a beaucoup envahi le domaine spirituel. Et ça, c'est une distraction. Pardon, c'est un piège du diable. La psychologie, c'est nous les hommes qui l'avons mise en place. C'est nous, ce n'est pas Dieu. Les méthodes psychologiques. Ce n'est pas Dieu qui a dit. La méthode que Dieu nous donne, c'est être rempli du Saint-Esprit. Point barre. Alors maintenant, pour ce qui concerne les histoires du monde spirituel, nous allons emprunter les méthodes du monde physique et nous avons le monde spirituel. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Utilisons les moyens spirituels pour des problèmes spirituels. Mais nous faisons la confusion. Nous utilisons les moyens matériels du monde physique. Nous venons les placer dans le monde spirituel. Ça ne peut pas fonctionner. Je vous l'ai dit. Mais on parle d'apostasie, pourquoi? C'est ça le résultat. Oui? C'est ça le résultat. Parce qu'on utilise les moyens du monde physique dans le monde spirituel. Et c'est que le monde spirituel, on met de côté. Bon, j'anticipe, il y a une chose que Robert va communiquer à la fin. J'anticipe. Vous avez suivi des pasteurs qui acceptent, protestants, de bénir le mariage homosexuel. Vous avez suivi? Bon. Jésus, quand il voulait choisir ses disciples, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il a passé toute une nuit dans la prière. Avant de prendre de grandes décisions, Jésus était dans la prière. Il a fait toute une nuit, demandant à son Père de le guider dans le choix des disciples. Bon, nos confrères là-bas, les pasteurs, qui ont pris cette décision, ont-ils pris une nuit de prière, consultant Dieu, pour dire que Dieu, voilà, cette histoire-là de mariage que nous le connaissons, c'est devenu archaïque. Nous, on a évolué. On ne peut plus continuer à avoir mariage homme-femme, non. Nous, on veut maintenant homme-homme, femme-femme. Bon, s'ils allaient consulter Dieu, Dieu allait dire, oh, allez-y. Ils ne l'ont pas fait. Voilà, vous voyez le problème. Au lieu d'utiliser les moyens psychologiques et les moyens spirituels, ils vont emprunter une méthode physique. On amène à un monde spirituel. Voilà les gars. Je vous donne un exemple concret. Bien-aimés, c'est par mon esprit. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, ni le cartésianisme, ni au moins encore la psychologie. Bien-aimés, peuple de Dieu, jusqu'à quand vous allez être sourds à la parole de Dieu? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dieu parle, il donne les moyens, et vous êtes sourds, vous ne voulez pas écouter. Jusqu'à quand? Maintenant, nous le déplorons. C'est nous les protestants, ça le fait honte par rapport à l'église catholique. Il dit, voilà les protestants. La première église, donc, c'est nous les protestants qui commençons. nous offrons le bal, on va bénir le mariage homosexuel. Quelle honte! Bon, toutefois, c'était un combat spirituel. Moi, j'essaie un peu de comprendre que c'est ça le moyen du monde physique qu'on a transposé dans le monde spirituel. On ne veut pas utiliser les méthodes du monde spirituel. Voilà où ça nous amène. Bien aimé, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une réalité. Parce qu'il y en a qui disent que non, cette histoire-là, c'est à l'église primitive. Pas pour nous en ce siècle-ci. Ah bon? Je vous donne un exemple. Je vous donne un cas concret. Parce qu'il y a un livre écrit par Meltari en Indonésie en 1965. C'est une église réformée presbytérienne. Toutes les histoires sont carrées. Oui, là-bas, dans cette église-là-bas. Aucune place pour le Saint-Esprit. C'est eux qui décident. Ils ont mis en place le système à eux. Mais un jour, j'étais dans l'église. Alors, on a vu l'église était en feu. Les gens disaient dehors. L'église est en feu. Alors, on a tapé le coxin. Toxin, voilà. C'est une cloche à bague. Dès que ça retentit, tout le monde doit savoir qu'il y a l'incendie. Comme ici, c'est le 18, hein, pour acheter des pompiers. Hein, pour venir éteindre le feu. Oui. Là-bas, c'est le toxin. On a tapé le toxin. Allez, tout le monde s'est amené avec son seau d'eau pour éteindre le feu. Les gens arrivent. Et ils voient bien, l'église est en feu. Mais il ne brûle pas. Mais ils étaient bluffés. Confondus. Mais ils entendaient les cris, les prières des gens qui étaient à l'intérieur. C'est pas possible. Mais ça brûle et puis les gens parlent. Ils ont été touchés par le Saint-Esprit. Beaucoup se sont convertis. Il y avait 200 personnes. Alors, au soir, le lendemain, le soir, il y avait 1000 personnes dans l'église. Sur place, 800 personnes se sont converties. Bien aimé. Après le baptême du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, Pierre se met debout. Et dit, vous, que c'est journée à Jérusalem, écoutez ceci. C'est Jésus que vous avez tué, c'est Jésus que vous avez tué. Alors que tantôt, Pierre avait peur d'une femme. Hein. La femme dit, ah, toi, si tu étais avec Jésus, ah, moi, non. Je ne connais pas ce Jésus-là. Je ne connais pas. Père a tremblé, il a eu peur. Maintenant, après qu'il soit basé dans le Saint-Esprit, il s'est ragaillardi, basé, donc revêtu, rempli de l'intérieur. Il dit, voilà, vous, c'est Jésus que vous avez tué. Il n'a plus peur. Hein? Cette femme-là, elle était aussi dans la foule. C'est Jésus que vous avez tué. C'est lui qui a fait que nous ayons cette puissance. Amen. À la fin de son discours, 3000 âmes se sont converties. En un coup, 3000. Et les 3000 ont été baptisés. Quelques jours plus tard, l'église est passée de 3000 à 5000. Vous voyez? Les moyens que Dieu nous donne. Mais nous, on dit non. Nous, on est actuel, hein, on est moderne. Ça doit travailler. Hein? C'est ce que Dieu a dit? Cessons d'être sous bien-aimés. Alors, vous voyez l'église du Seigneur, dans 2:41, la prédication de Pierre, 3000 âmes converties. Quelques jours plus tard, dans Acte 4, versets 1 à 4, l'église est passée de 3000 à 5000 par la puissance du Saint-Esprit, en utilisant la méthode que le Seigneur Jésus nous a donnée. Voilà ce qui s'est passé. Mais nous aussi, aujourd'hui, on dit non, il faut réfléchir. Hein. Il faut réfléchir. Vous allez réfléchir aux histoires des cieux, du monde spirituel que vous ne connaissez pas. Mais c'est fou. Un monde que vous ne connaissez pas. Et vous allez réfléchir sur ce monde-là. Bien aimé. Même dans le bon sens. Alors, utilisons les moyens. La Pentecôte, c'est ce jour que l'Église est née. Il y a eu une prédication de Pierre. 3000 âmes se sont converties. 15 jours plus tard, c'est passé de 3000 à 5000 par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça que le Seigneur nous a donné. Dieu donne des capacités nécessaires et des ressources illimitées. Illimitées, bien-aimés. Illimitées. Lisez le livre d'histoire. Bon, moi, je suis reconnaissant aux missionnaires européens qui sont venus en Afrique nous prêcher la parole de Dieu. C'est des gens remplis du Saint-Esprit. Mais ils se faisaient des miracles. Mais alors,
Tout le monde était bluffé. Il y a eu des sorciers en Afrique, vous savez. La sorcière, même ici, ça y est. Bon, mais en Afrique aussi, les sorciers. Quand, c'est comme le Simon le magicien. Mais quand il a vu des choses formidables, mais ce que Philippe avait fait, donc, mais Étienne, mais il était étonné. Donc, la puissance des dieux est supérieure à celle du monde des ténèbres. Et alors, mais les sorciers se sont convertis en Afrique, vu la puissance du Saint-Esprit qui s'est opéré sur le terrain. Qu'est-ce que vous croyez? Parce que les chefs coutumiers là-bas, les chefs du village, ce sont des grands sorciers. Alors maintenant, la méthode de l'évangélisation, il faut commencer par le chef. Dès que vous commencez par le chef, tout le monde suit. Oui, c'est ça. Alors ils ont commencé par le chef. Mais le chef, il voit les miracles, alors il tremble, il s'est converti. Alors tout le monde, il ne va plus résister, mais le chef s'est converti. Alors tout, souvent le chef. Voilà comment il y a eu beaucoup de conversions. Utilisez les moyens que Dieu nous donne. Amen. Alors, voici ce qui se passe, parce que nous sommes en France. Vous pouvez nous projeter un peu notre image là. On va voir ce qui se passe en France. Voilà. Je vais un peu emprunter le bâton de Jean-Pierre. Voilà, bien-aimé. C'est du CNEF, hein? C'est mis à jour, dernière mise à jour, le 20 mai dernier ici. Voilà, ici vous avez la carte de la France de l'année 70. Vous voyez, on dit là-bas, cette page présente les cartes de taux de pénétration des églises évangéliques dans les différents pays inclus sur ce site. C'est-à-dire, elle montre graphiquement le nombre d'églises présentes dans un territoire pour chaque 10 000 habitants. Une couleur plus foncée indique plus d'églises. Une couleur plus claire indique moins d'églises par rapport au nombre d'habitants du territoire. C'est clair, non? Bon, voilà la carte de la France pour ce qui concerne les églises. Vous voyez ici dans le sud, c'est très foncé. Donc, plus de 9 églises. Vous avez les couleurs, le monsieur a donné. C'est Daniel Litchi. Oui? OK. C'est lui qui a élaboré cette carte. Ça, c'est l'année 70. Voyez maintenant l'année 70 en 2015. Vous voyez? Alors, il y a certains endroits qui sont encore beaucoup plus clairs. C'est, je crois, de 0.1 à 1.0.19. Nous sommes à cette marge ici. Voici, maintenant, sur l'ensemble de la France. Vous voyez là-bas, il y a beaucoup de points blancs, des départements blancs, c'est-à-dire il y a moins d'églises, c'est-à-dire de 0 à 0,09 par 10 000 habitants. Bon, maintenant, 45 ans après, nous sommes en 2015, voici comment les choses ont évolué. Là, c'est le point de concentration où il y a beaucoup plus d'églises, plus de 9 églises pour 10 000 habitants. Alors, voici ce qui se passe. Il y a des points clairs ici. Je crois que c'est la Corrèze. Attends, j'ai noté ça. Là, c'est la Corrèze. C'est le département 19. Et puis nous avons là Côte d'Or, c'est le département de 21. Et au-dessus là-bas, vous avez la Somme. La Somme, c'est numéro 80. Département 80. Bon. Mais voici la situation, bien-aimés. Dans l'Est ici, nord-ouest, c'est ici où nous sommes. Nous sommes ici. Ille-et-Vilaine, c'est ça la Bretagne. Alors, vous avez ici quel département? La Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire, la Vendée. Ça, c'est dans le pays de la Loire. Alors, il y a aussi ici Morbihan, dans la Bretagne. Alors, bien aimé, nous allons faire un petit gymnastique. Divisez la carte, la France en quatre parties, comme ceci. Où se trouve la plus grande concentration? Non, au nord-ouest. C'est ici. Vous voyez, les points beaucoup plus clairs ici. Si on divise comme ceci. C'est beaucoup plus ici. Nord-ouest, nous ici. Pardon? Le manque, oui, c'est ce que j'ai dit. On ne s'entend pas. Vous dites, pasteur?
Concentration, c'est le sud.
Oui, mais il y a moins dans le nord-ouest. C'est toute l'étendue de la France. OK? Bon, excusez-moi si je me suis mal exprimé. Bon. Bien-aimés, comme nous, si nous disons comme ceci, c'est ici où il n'y a plus de concentration de... Pardon? Où il y a moins d'églises, oui. Oui. Bon, vous pensez que ce sont les gens d'ici qui veulent donc prêcher la parole de Dieu ici? Hein? Ce sont les gens de l'Est?
Non.
C'est autour de nous, la reine, la Bretagne. Hein? C'est nous. Vous pensez que ça consomme? Parce que l'ordre est, allez prêcher la parole de Dieu, faites de toutes les nations des disciples. Mais nous sommes en France, autour de nous. Oui. Ah, pour montrer. Ah, merci beaucoup. Merci. Il fallait que je vous consulte avant. Ah, voilà. Ouais. Voyez ici. Voilà. Là, Morbihan, c'est dans la Bretagne. Hein. Nous sommes ici. Il est vilaine, c'est ici. Alors, vous voyez que c'est dans notre région ici, où il y a beaucoup plus d'églises, où il y a moins d'églises. Donc, beaucoup de départements où il y a moins d'églises par rapport au reste de la France. Il y a seulement la Somme ici, Côte d'Or là-bas, et la Corrèze ici. Mais le plus grand nombre, c'est ici, dans le nord-ouest. Nous sommes interpellés, oui ou non? Oui ou non? Nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés, bien-aimés. Ça nous attend. Le devoir que Jésus nous a donné, il est là. Pas loin de chez nous. On ne vous demande pas d'aller en Corée du Nord, en Corée du Sud, ou bien aller en Amérique, ou bien en Afrique. Non, ici en France. C'est autour de nous. Le Seigneur nous a donné le moyen. Utilisons le moyen que le Seigneur nous a donné pour que nos frères viennent au Seigneur, acceptent Jésus comme Seigneur Sauveur. Parce que, dites-vous, bien-aimés, chaque jour, si quelqu'un meurt qui n'a pas accepté Jésus, il va tout droit en enfer. C'est ça la vérité. Jésus a dit, personne ne vient au Père que par moi. Cette vérité ne va pas changer. Donc, nous avons la responsabilité d'apporter la bonne nouvelle à tout le reste, aux départements tout autour de nous en France. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On va prier. Notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, parce que tu nous aimes. Nous te disons merci pour ta parole qui est complète. Permets, Seigneur, d'attirer l'attention de tes enfants, qu'ils soient plus sourds, qu'ils recherchent l'unique méthode que tu nous as donnée, c'est d'être baptisé dans le Saint-Esprit pour faire le travail. Alléluia. Pour gagner des âmes perdues, pour les amener vers toi, parce qu'ils sont enchaînés par le diable. Et ne laisse pas le temps, Seigneur, d'écouter ta parole ou de te suivre. C'est à nous que Dieu a donné cette responsabilité. Je remets cette église, Seigneur, entre tes mains, qui est des frères et sœurs, qui vont se mettre debout pour aller prêcher la parole de Dieu, afin que les âmes soient gagnées, afin que ton nom soit glorifié. Bénis, Seigneur, cette église. Bénis Ille-et-Vilaine. Bénis la Grande-Bretagne. Bénis aussi le pays de la Loire. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.